Salut, ici Consti de Coach Drag. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Alan Kicker de draguerunefille.net. Alan s'est spécialisé dans la drague en rue et dans la drague en ligne. Et c'est surtout de ces deux sujets que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Alan.
Hello Consti, comment ça va?
Ça va, merci. Et toi, ça va?
Mais écoute, fort bien. Merci de me recevoir pour cette interview.
Ah ben non, surtout un très grand merci à toi d'avoir accepté de faire cette interview. Ça va nous faire du bon contenu, hein?
Ben espérons-le, espérons-le.
Ok Alan, avant de parler spécifiquement de la drague en rue et de la drague en ligne, peux-tu nous dire qui tu es, ce que tu fais et nous donner un petit résumé de ton parcours?
Ok, donc je m'appelle Alan Kicker, je me suis intéressé à la séduction à partir de 2007. À l'époque, j'habitais encore en province, en France. Et comme j'étais assez timide, en fait, je me suis dit, bon, j'ai du mal à approcher les filles dans la vie réelle, donc je vais commencer sur Internet, d'autant plus qu'à l'époque, j'étais déjà à fond dans l'informatique, j'étais déjà un bon petit geek, donc c'était un moyen dans lequel j'étais à l'aise, on va dire, pour rentrer en relation avec les femmes. Donc ça, c'était en 2007. Et puis en 2008, j'ai déménagé sur Paris pour trouver un nouveau boulot. Et là, en voyant plein de jolies filles dans la rue, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. On ne peut pas passer sa vie sur Internet. Il y a autant de jolies filles dans la rue. Donc voilà, je me suis lancé le défi d'aborder les filles dans la rue. Et au début, bon, c'était pas évident. Pas parce que c'était difficile, mais parce que j'osais pas. Parce que voilà, j'avais toujours cette espèce de carapace, ce côté timide, j'osais pas, j'avais peur de déranger les gens quand je les approchais. Et puis, ben, à force de travailler, donc ben, j'ai réussi à devenir très très à l'aise dans la rue et limite plus à l'aise dans la rue que sur Internet, parce que voilà, ça devient au final plus facile, plus rapide, plus spontané. Et j'ai presque envie de dire, on perd moins son temps dans la rue que sur Internet, où on peut passer, je sais pas, peut-être une heure à échanger des messages, des emails avec une nana pour au final qu'il se passe rien. Dans la rue, t'as 5 minutes pour faire une bonne ou une mauvaise impression, et si ça marche bien, ben tant mieux, ça s'est fait rapidement. Si ça marche pas, ben tant pis, t'en trouveras une autre. Enfin, à Paris, en tout cas, c'est pas ce qui manque les filles. Donc voilà rapidement pour mon parcours entre guillemets de séducteur. Et alors pourquoi est-ce que je m'arrête à 2008? Tout simplement parce que depuis je suis en couple, donc ça fait maintenant 2 ans, et donc je ne séduis plus de manière aussi active, on va dire, mais ça m'arrive quand même de le faire pour le plaisir ou pour expliquer certains points précis au lecteur, que ce soit à travers, ben, je sais pas, des caméras cachées ou ne serait-ce que pour me remettre dans le bain, pour pouvoir expliquer des concepts qui à l'époque me semblaient clairs, mais qui maintenant ben, le sont un peu moins parce que je pratique un peu moins souvent. Donc professionnellement, je travaillais dans l'informatique, mais ça va bientôt changer puisque je vais travailler à mon compte, faire de la production audiovisuelle et du marketing. Donc voilà, ça situera peut-être un peu plus les lecteurs. Par rapport à qui est Alan Kicker, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il le fait ou pourquoi il le fait pas.
Ok. Et quand tu dis dans l'audiovisuel et le marketing, c'est dans quel domaine précisément? La séduction?
Alors il y a ben, une partie qui sera consacrée à développer l'activité du blog draguerunefille.net.
Oui.
Et une autre partie, c'est d'autres projets qui n'ont strictement rien à voir. Par exemple, j'ai un projet où je traite des caméras vidéo embarquées pour les sports extrêmes. Donc c'est vraiment un sujet qui n'a rien à voir. Parce que voilà, j'aime bien faire du sport, j'aime bien filmer et faire du montage vidéo. Donc voilà, après c'est surtout lié aux passions et aux opportunités qui vont se présenter.
Ah, ok. Okay. Alors Alan, parlons un peu de la drague en rue spécifiquement.
D'accord.
Alors, hein, la question que tout le monde se pose, Alan, comment draguer une femme dans la rue?
Alors, c'est pas compliqué. À la limite, c'est même limite pas de la drague, c'est-à-dire que mon approche, en tout cas, qui m'est propre, c'est d'aller rattraper la fille, parce qu'en général, je la croise. Hein, on n'a pas forcément des chemins qui se suivent, mais plutôt des chemins qui se croisent quand c'est dans la rue. Mm-hmm. Donc, je la rattrape et j'attire son attention en général avec une petite tape sur l'épaule. Et je lui explique tout simplement que voilà, elle me plaît et que je sais pas, j'aimerais faire sa connaissance parce qu'elle me plaît et j'ai pas forcément beaucoup de temps sur le moment, mais j'aime bien prendre quelques minutes pour essayer de faire la connaissance de cette personne. Et donc il n'y a pas vraiment de phrase toute prête. Je vais sortir la première chose qui me vient à l'esprit. En général, c'est juste lui dire que voilà, je viens de vous croiser, vous me plaisez. Et je me suis dit que voilà, fallait que je tente quelque chose. Je m'appelle Geoffrey, donc je me présente. Ou je m'appelle Alan, ou je m'appelle Nicolas, peu importe. Et suite à ça, donc la fille, en général, elle, ben, elle est un peu surprise au début. Puis bon, ça la flatte, ça lui fait plaisir. Des fois, elle rougit. Elle se présente également à son tour. Et puis, on entame une conversation. Alors après, la plupart des mecs se demandent, mais comment est-ce que tu fais pour entretenir une conversation avec une fille? Alors là, ça devient un peu plus compliqué à expliquer de manière générique, parce que chaque interaction est différente. Donc en général, je vais me baser sur le contexte de la situation pour amorcer la conversation. Si elle a 3 sacs de courses, par exemple, oui, et c'est la période des soldes, je vais lui demander si elle a fait des bonnes affaires. Enfin, c'est des choses toutes simples, mais qui permettent de lancer la conversation rapidement. Si, je sais pas, elle a un cartable, je lui demande ce qu'elle étudie. Voilà, des idées toutes simples, mais qui vont alimenter la conversation naturellement.
Ok. Donc, si j'ai bien compris, tu croises une belle fille, tu te retournes, ouais, tu la rattrapes, tu l'arrêtes en faisant une petite tape sur l'épaule, et là, tu dis à haute voix ce que tu penses, en fait, que tu la trouves mignonne et que tu voudrais faire sa connaissance. Ensuite, tu te bases un peu sur ouais, le contexte, la situation ou la fille en question pour développer une petite conversation. C'est bien ça?
Exactement.
Ok. Donc il y a une petite partie d'improvisation, bien sûr, et d'observation. Allez, dans le sens inverse, en fait. Observation, hop, improvisation.
Exactement.
Et alors ensuite, donc, l'approche, tu exprimes tes intentions, tes envies, tu penses à haute voix. Ensuite, la conversation. Et que faire ensuite? Donc après la petite conversation, donc après l'avoir abordée, après avoir discuté un petit peu avec elle, que faut-il faire ensuite pour voilà, obtenir le numéro, obtenir ou le rendez-vous, ou même plus? Bref, peux-tu nous décrire le déroulement, en fait, de la conclusion, pour ainsi dire?
Oui. Alors, déjà, j'aurais tendance à dire quelque chose pour les gens qui débutent. Quelque chose que je ne fais plus actuellement, mais quand on débute, à la limite, il faut toujours tenter de repartir avec le numéro, même si on n'est pas forcément intéressé par la fille au premier abord, parce que voilà, on a discuté avec elle, mais il n'y a pas vraiment le feeling qui fait que on a envie de la revoir. Rien que pour l'entraînement, j'encourage quand même les gens à essayer d'aller jusqu'à la prise de numéro. Maintenant, si vous n'avez plus vraiment d'appréhension pour demander un numéro, je vous recommanderais plutôt de faire autrement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de feeling, ne cherchez pas à prendre le numéro, dites-lui juste de passer une bonne journée. Voilà, mettez fin à la conversation gentiment, tranquillement, mais ne pas chercher à prendre les numéros des filles avec lesquelles vous sentez que ça n'ira pas vraiment plus loin. Maintenant, si vous avez le besoin de prendre ce numéro, ou si vous avez l'envie tout simplement de prendre ce numéro, la manière la plus simple est... qui pendant bien longtemps m'a échappé, c'est pendant la conversation, en fait, trouver un centre d'intérêt commun avec la fille et lui proposer d'appliquer, entre guillemets, ce centre d'intérêt commun. Donc, par exemple, moi, j'aime bien danser. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'inviter une nana que je croisais dans la rue à un des cours de danse du mardi soir. Et donc, en fait, je ne demande pas le numéro directement. Je l'invite à faire une sortie. Et si la fille accepte, seulement après, je demande le numéro. Donc le numéro devient une conséquence logique du fait qu'on va se revoir. Alors qu'au début, j'avais tendance à faire l'inverse. Je demandais le numéro, et une fois rentré chez moi, j'attendais quelques jours pour proposer un rendez-vous. Donc non seulement je perdais du temps, mais en plus, je m'exposais à un risque de refus plus élevé parce que voilà, la fille ne m'a plus en face, elle est plus en train de passer un bon moment avec moi, donc elle a peut-être changé d'humeur, changé d'état émotionnel, donc peut-être qu'au moment où je vais l'appeler, ben, elle sera plus dans la même ambiance et elle aura pas envie de faire cette sortie-là. Alors que si elle s'est engagée avec moi le jour de la rencontre, oui. Ben, elle va certainement avoir plus d'intérêt à tenir cet engagement.
Donc, juste en changeant l'ordre,
exactement.
Tu augmentes tes chances de réussite, pour ainsi dire.
Ben, tu augmentes tes chances de réussite, puis c'est aussi plus facile pour tout le monde, parce que toi, ça veut dire que tu n'as pas besoin de galérer au téléphone pour obtenir un rendez-vous. Ben, je ne sais pas, toi, quand tu as commencé à séduire les filles, si tu as récupéré des numéros au début, mais personnellement, je n'étais pas à l'aise au téléphone avec les nanas. J'avais l'impression que voilà, le rendez-vous, c'était un objectif limite insurmontable. Donc, ce que je faisais, c'est que j'appelais la fille, je prenais ses nouvelles, comment ça va, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Donc, en gros, j'essayais de boucher les vides, boucher les trous, jusqu'au moment fatidique où, n'ayant plus rien à dire, j'ai demandé « T'es libre mardi soir pour aller prendre un verre ?»
Ouais.
Et ben, en général, ça marchait pas des masques.
Ouais, ouais, ça crée comment dire, ouais, ça crée une certaine tension, comme ça, un moment absolu de tout ou rien.
Exactement. Ça crée un malaise. Il y a une certaine anticipation et quand ça marche pas, c'est très frustrant du coup parce que on a l'impression qu'il faut tout recommencer à zéro et qu'on a dépensé beaucoup d'énergie pour rien.
Ok, très intéressant, merci. Très très intéressant, oui. Alors, quelles sont les réactions les plus courantes que tu reçois de la part des filles en draguant dans la rue, évidemment?
Le plus souvent, maintenant, c'est ben les filles sont juste flattées et souriantes. Maintenant, des fois, enfin, je tombe des trucs un peu extrêmes juste pour le fun, où je sais que la fille a l'air pertinemment pressée, qu'elle est déjà en train de galoper, mais je vais y aller parce que je la trouve mignonne, qu'elle me plaît et que j'ai envie de tenter quelque chose. Bon, là, c'est un râteau, des fois bête et méchant, c'est-à-dire que la fille m'ignore tout simplement et continue de tracer sa route. Mais bon, là, on va dire que je l'ai bien cherché.
Et quand tu dis des choses extrêmes, peux-tu nous donner un petit exemple?
Quand j'aborde les filles, ben, en fait, si tu veux, c'est, je croise une fille et je sais déjà d'avance que la fille est super pressée parce qu'elle marche très vite, de manière déterminée. Et c'est parce qu'en général, elle a un objectif en tête ou elle est en retard à un rendez-vous et il y a très peu de chances pour qu'elle s'arrête pour me parler à moi parce qu'elle a déjà autre chose en tête, si tu veux. Elle n'est pas juste en train de se promener, de se balader. Et quand je dis extrême, c'est dans le sens où je sais qu'il y a très peu de chances que ça marche, mais j'ai juste envie de tenter le coup pour le fun et puis voilà quoi.
Ok. Si je peux traduire, paraphraser, donc les réactions les plus courantes, c'est en fait un non poli ou un non moins poli. Les non moins polis, bon, c'est plus rare, mais la réaction en général la plus courante, c'est un gentil non.
Non, c'est pas vraiment ça, c'est-à-dire comme. La réaction la plus courante, c'est qu'elles sont souriantes et qu'elles le prennent bien, mais oui. Ça peut être aussi bien un oui qu'un non, je veux dire. Je considère pas qu'il y a 80% de non et 20% de oui, ou à l'inverse 80% de oui ou 20% de non. Ça peut être assez fluctuant d'une journée à l'autre. Ça dépend aussi de l'humeur des filles. Chose qui est marrante aussi, c'est que ça dépend un peu de la météo. Genre les jours où il y a du soleil, les filles bizarrement sont plus de bonne humeur que les jours où il fait tout gris et qu'il commence à pleuvoir. Je dirais pas que de manière générale les filles disent plus non que oui. Je dirais surtout qu'elles sont en général souriantes, elles le prennent bien, et peut-être une fois sur dix elles le prennent mal parce que voilà le contexte s'y prête pas.
Ok. Alors les réactions négatives, le rejet. Comment gères-tu le râteau en fait? Que fais-tu quand tu te prends un râteau? Parce que bon, quand ça marche bien, c'est bon, ça fait plaisir. Mais quand on se prend un râteau, ben là, il faut gérer mentalement, émotionnellement, parce que voilà, ça fait mal, quoi.
Ouais. Mais en fait, ça fait surtout mal les premières fois. Et si on est conscient en fait que ça nous fait pas mal quelque part à nous-mêmes, mais ça nous fait mal à l'ego. et qu'on arrive à se dissocier un peu de cet ego en disant, bon, écoute, c'est pas grave, de toute façon, dans deux minutes, tu ne penseras même plus, surtout si tu revois une jolie fille derrière. Bah c'est là qu'on réalise que voilà, ok, sur le coup j'ai mal, mais je sais que de toute façon ça va pas durer, je m'en fous et je laisse faire et je passe à la suite et d'ici deux minutes la situation peut s'inverser du tout au tout. Donc c'est pas évident les premières fois à gérer parce que voilà on est très attaché au fait de vouloir plaire aux autres, mais plus en fait on pratique et plus on réussit facilement à se détacher de l'issue de la situation. D'autant plus quand quand on sait pertinemment qu'on plaît déjà à d'autres filles. C'est-à-dire que si dans ton carnet d'adresses il y a déjà 10 filles qui attendent un rendez-vous, si tu prends un râteau, clairement t'en as rien à faire.
Mais oui, donc c'est clair qu'il faut en arriver là. L'expérience. Deux, avec l'expérience viendra aussi une certaine abondance, un certain choix.
Exactement.
Donc ces deux éléments-là. Et l'abondance est clairement le résultat aussi de l'expérience. Donc on commence par l'expérience, la pratique, la répétition, et petit à petit, on va développer une certaine abondance, un certain choix. C'est bien ça.
Exactement.
Et aussi quand tu dis se détacher, comment fais-tu exactement pour te détacher? Bon, à mon avis, c'est une technique, entre guillemets, une technique mentale. C'est quelque chose que tu te dis en toi. Quelque chose que tu ressens, que tu te dis dans ta tête.
Ouais, c'est un ensemble, en fait. Typiquement, ça peut être se dire, c'est pas grave, de toute façon, dans deux minutes, je vais voir une autre jolie fille et je vais l'aborder, ça ne peut que se passer mieux, par exemple, donc c'est aller dans un sens positif. Ça peut être aussi aller dans un sens où on se remémore les moments où ça s'est déjà bien passé en se disant, écoute, j'ai déjà quand même eu des expériences vachement positives avec d'autres filles la semaine dernière, donc si ça s'est mal passé avec celle-là, c'est pas grave, peut-être qu'il était de mauvaise humeur. La troisième manière aussi, c'est de se dire, ok, là, ça a pas marché. Je le prends pas comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage. Et qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de ce qui vient de se passer pour que la prochaine fois soit une réussite? Donc, c'est un ensemble de croyances, de manières de penser qui font que, individuellement ou même en les combinant les unes avec les autres, en fait, chaque expérience n'est pas vraiment un échec ou un râteau, mais est plus l'occasion de faciliter ses prochains succès, ou en tout cas de positiver sur la situation.
Ok. Très intéressant, vraiment. Je suis... je suis très content de faire cette interview parce que tu donnes des infos très très intéressantes et de grande valeur, donc... un petit merci intermédiaire.
Écoute, j'espère que les lecteurs en profiteront au moins autant que toi.
Ah, j'en doute pas.
Cool.
Ok, maintenant je vais te poser une question assez particulière.
Vas-y.
Une question assez particulière.
Je me prépare.
Alors, concernant la drague en rue.
Ouais.
Peux-tu nous raconter l'histoire la plus bizarre, ou la plus drôle, ou la plus loufoque qui t'est arrivée?
Ok. J'ai le droit de réfléchir quelques secondes là?
Oui, bien sûr.
Ok, alors attends.
Tu veux un petit café?
Non, je bois pas de café, malheureusement. Alors, une qui était marrante. Un jour où je sortais de chez moi pour sortir, je crois, un samedi soir. Juste en sortant de la résidence, je vois une fille qui me plaît et je me dis, bon allez, je tente ma chance. Donc je fais demi-tour et je la rattrape. Et elle s'appelait Valérie. Donc Valérie, si tu nous écoutes, je pense à toi ce soir. Parce que qu'est-ce qui était marrant dans cette interaction, c'est que donc je l'ai vue cette fille en sortant de chez moi. J'ai pris ses coordonnées et donc on s'est appelé plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi à la revoir jusqu'au jour où quelque chose comme un an après, la fille me rappelle elle-même pour reprendre contact et pour qu'on se voit pour un rendez-vous. Et ce qui était marrant, c'est que J'avais l'impression que si elle reprenait contact avec moi à ce moment-là, c'est que je l'avais plus à l'époque, mais que ça s'était pas fait pour une raison X ou Y. Peut-être qu'à l'époque, j'étais pas suffisamment doué par téléphone pour réussir à la ramener en rendez-vous. Mais bref, ce qui m'avait fait rire ce jour-là, quand elle m'a rappelé, c'est que je me suis dit, bon, il doit s'être passé quelque chose. Je pense qu'elle a dû se faire larguer ou larguer son mec et elle en cherche un nouveau. Et c'était ça, quoi. Donc, en fait, moi, j'étais déjà casé à l'époque, donc j'avais juste accepté l'invitation pour la revoir et pour rediscuter plus amplement avec elle. Et effectivement, elle était à nouveau sur le marché des célibataires. Et par la suite, c'est quelque chose qui s'est passé plusieurs fois avec d'autres filles. C'est-à-dire qu'on peut très bien récupérer le numéro d'une nana, ne rien réussir à en faire sur le moment, et puis un beau jour, vous avez un petit coup de fil, et là, vous pouvez être sûr que la nana est célibataire et qu'elle n'est pas contre l'idée de vous revoir. Donc voilà, c'était une histoire qui, à l'époque, m'avait fait sourire.
Ok. Donc, en fait, ça peut se voir, on peut voir en fait la drague en rue et le fait d'obtenir un petit numéro comme un investissement à long terme, donc. Hein, y a...
Ouais, mais alors, c'est pas un investissement super sûr dans le sens où des numéros comme ça, à long terme, il n'y en a pas beaucoup qui marchent non plus. Je préfère quand même les travailler sur le moment et reprendre contact rapidement avec la fille plutôt que d'attendre un an en se disant c'est un investissement à long terme.
Oh oui, oui, tout à fait. Ok, et peux-tu nous raconter maintenant l'histoire la plus humiliante qui t'est arrivée, la plus pénible?
Ouais. Alors, je le verrais pas comme la plus humiliante, parce que bon, je l'ai pas pris comme une humiliation, mais plus comme une déception et une envie de revanche, on va dire. Oh. Donc c'est marrant parce que c'est comme l'histoire précédente. Je sors de chez moi un soir pour un samedi soir, et juste en bas de chez moi, je croise une fille. Sauf que cette fois, c'est pas moi qui me retourne pour la rattraper, c'est elle qui m'aborde direct parce qu'elle cherchait, elle était perdue, elle devait se rendre à une crémaillère et elle cherchait l'adresse de son ami. Donc, j'essaye de lui filer un coup de main et puis, je la taquine un peu au passage. On discute, le courant passe bien et puis je me dis intérieurement, écoute, là tu viens de croiser une fille, bon c'est elle qui t'a abordé. T'as pas fait le premier pas, mais voilà, pourquoi ne pas en profiter pour essayer d'aller plus loin. Donc, j'ai réussi à prendre son numéro et on s'est vu, je crois, la semaine suivante, je sais plus exactement, pour se faire une sortie au musée. Et après le musée, on est allé prendre un verre tranquillement. Et ce qui m'a le plus énervé, entre guillemets, en fait, c'est qu'à un moment, elle m'a demandé mon âge. Et à l'époque, je devais avoir 24 ou 25 ans, et elle en avait 30. Et à partir du moment où elle a su mon âge, en fait, elle s'est complètement braquée, elle était plus du tout intéressée, j'ai pas réussi à retourner la situation à mon avantage. Donc je crois que c'est la situation que j'ai trouvée, celle qui m'a marqué le plus, parce que je trouvais ça extrêmement frustrant à l'époque, sur le moment, de pas savoir comment surmonter l'obstacle.
Ok. Est-ce que tu as entrepris des actions pour te venger?
Pour me venger, non, mais pour surmonter l'obstacle, oui. C'est-à-dire que j'ai réussi, en fait, maintenant. À l'époque, en tout cas, quand j'ai rencontré ma copine, c'est pareil, il y avait une grande différence d'âge, et au début, ça lui a fait un peu un choc, on va dire. Alors, je dis grande, c'est pas si grand que ça. Hein. J'avais 25 ans, elle devait en avoir... Non, j'en avais toujours 24 à l'époque et elle en avait 29. Donc ça faisait 5 ans de différence. Mais bon, pour elle, elle avait l'impression de rencontrer un petit jeuneau, du coup. Chose qu'elle n'avait pas ressentie au premier abord, parce que j'essaye d'avoir un comportement assez mature, si tu veux. Et quand on s'est croisés, j'étais parti pour aller au boulot, donc j'étais en costume avec la cravate, enfin le côté sérieux, quoi. Donc, pour remédier à ça, la meilleure parade que j'ai trouvée, c'est tout simplement d'assumer à 200% le fait que voilà, j'aime les filles plus âgées. Et c'est pas parce que elle n'est pas prête à rencontrer quelqu'un de plus jeune que je peux pas lui apporter ce qu'elle attend d'un homme, en fait. Mmh. Parce que en général, ouais, ce qu'il y a, c'est que les filles qui ont un problème avec l'âge, c'est qu'elles ont peur d'être déçues par rapport aux attentes qu'elles ont de l'homme dans la relation, que ce soit une relation exclusive ou une relation juste au niveau sur le plan sexuel ou autre. Mais elles ont peur d'être déçues par rapport à leurs attentes. Donc c'est leur prouver que de notre côté, on assume complètement cette différence d'âge. Et leur montrer qu'on assure autant qu'un mec qui aurait l'âge qu'elle voudrait qu'on ait.
Okay.
Alors ça peut sembler un peu abstrait comme ça, mais c'est normal puisque chaque femme peut avoir des attentes différentes. Donc c'est au moment où on essaye de la séduire, déjà d'essayer de cerner qu'est-ce qui lui plaît chez un homme. Et ça peut faire l'objet de questions assez directes hein, d'ailleurs. On n'est pas obligé d'essayer de deviner entre les lignes ce qui lui plaît.
Donc tu lui poses la question quoi directement.
Ouais, bah par exemple ça peut être une question aussi simple que ok donc si moi je suis trop jeune, le mec idéal pour toi qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de moins que moi? À quoi il ressemble? Qu'est-ce que son âge fait qui pourrait faire que moi je ne correspond pas à l'homme que tu recherches? Donc essayer de la faire verbaliser ce qu'elle pense être ses caractéristiques, enfin ses prérequis, pour lui faire réaliser qu'au final tu vaux largement aussi bien, voire mieux que l'image qu'elle se fait de l'homme qu'elle aimerait avoir.
Ok. Une petite question piège.
Vas-y.
Quand tu lui demandes, voilà, selon toi, l'homme qui a l'âge idéal, qu'est-ce qu'il a? Quelles caractéristiques, quelles compétences, quelles qualités est-ce qu'il possède? Et quand elle te répond, et quand elle mentionne une qualité que toi tu ne possèdes pas.
D'accord.
Que fais-tu alors? Ou que ferais-tu? Est-ce que, tu développerais cette compétence pour satisfaire ses besoins? Ou non, tout simplement. Est-ce que tu t'adapterais ou pas?
J'aurais tendance... Non. Enfin, je suis pas du genre... avec le recul, j'ai appris que ça servait à rien de s'adapter trop... Enfin, pour faire plaisir, en tout cas, ou pour essayer de ratisser plus large, on va dire. Non, par contre, ce que j'aurais tendance à faire, c'est à la taquiner derrière sur cette caractéristique spécifique, pour essayer de lui montrer que c'est pas si indispensable que ça, à mon sens. Si, en tout cas, je considère que ça l'est pas.
Ok.
Donc, j'essaierai quand même de tourner la situation à mon avantage, mais pas en adoptant la caractéristique, mais plus en essayant de moquer de la fille, d'attaquiner et de rester dans une dynamique de flirt plutôt que dans une dynamique logique.
Ok. Alors, quel est ton meilleur conseil pour les hommes qui veulent se lancer dans la drague en rue?
Mon meilleur conseil, c'est difficile parce qu'il y en a, beaucoup, mais je crois que c'est avant tout un conseil au niveau mental. Si vous voulez draguer en rue et que vous avez la chance d'avoir une ville assez grande à votre disposition, et en général, bon, tout le monde en a une pas trop loin de chez lui à disposition. Considérez simplement que la ville, en fait, c'est un immense laboratoire de recherche et que chaque fille qui passe, c'est l'occasion de faire une nouvelle petite expérience. Voilà, tout simplement. Donc, faut le prendre plus comme un jeu, comme si vous étiez un petit peu un savant fou qui peut faire plein d'expériences. Et au final, la plupart de ces expériences n'ont pas de conséquences. Je dis la plupart, et même j'ai envie de dire toutes les expériences n'ont pas de conséquences. Dans le sens où si vous les pratiquez dans une ville où il y a quand même un certain nombre d'habitants, je parle pas uniquement de Paris, mais je parle d'une petite ville comme en province. Moi, j'habitais dans une ville qui s'appelait Vichy. On tombe régulièrement sur des filles qu'on n'a jamais croisées, donc il y a pas de souci. On peut se lancer et ça aura pas de conséquences sur la suite. Bon, si vous êtes dans un village de 300 habitants, c'est un peu plus compliqué à gérer parce que vous avez des chances de recroiser régulièrement les filles, mais je sais pas, je dirais que dans l'ordre d'idée, si vous avez entre 50 000 et 100 000 habitants dans votre ville, lâchez-vous, faites-vous plaisir, la ville est votre laboratoire.
Ok. quel est le problème le plus courant de tes lecteurs et de tes clients en matière de drague en rue? Bref, quel est quel problème revient le plus souvent et quelle est la solution à ce problème?
Alors, je pense pas avoir une méthode miracle à proposer, mais en tout cas, la méthode que je propose, elle permet de s'affranchir progressivement de ce qu'on appelle la peur de l'approche, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi dire ou quoi faire pour approcher une fille noire. Donc ça, c'est le problème le plus courant, tout simplement, parce que c'est le tout premier obstacle qui se dresse quand on veut approcher une fille. Que dire, quoi faire, comment l'aborder. Donc je serais plutôt prescripteur de petits exercices où la difficulté est progressive. C'est-à-dire que dans un premier temps, si on est vraiment très timide, on va commencer par demander l'heure ou demander un renseignement. Ensuite, ça peut être tout simplement dire bonjour aux personnes que l'on croise dans la rue pour déjà, non pas pour arrêter les gens, mais juste pour essayer d'avoir un premier contact visuel avec eux, les yeux dans les yeux. Et puis pour se lancer face à quelqu'un qu'on connaît pas. Et sans essayer de maîtriser sa réaction, parce que quand vous approchez quelqu'un pour lui demander l'heure, quelque part vous savez que vous allez avoir en réponse certainement l'heure, donc il n'y a pas vraiment d'inconnu. Par contre, quand vous dites juste bonjour à quelqu'un sans essayer d'aller plus loin et en continuant votre chemin, vous savez pas vraiment ce qui va se passer parce que c'est pas quelque chose qui est habituel, on va dire. En tout cas, dire bonjour à un inconnu comme ça dans la rue, c'est pas habituel. Donc on essaye de briser petit à petit les barrières jusqu'à arriver à approcher la fille. Donc peut-être qu'au début on n'approchera que des filles qui sont seules, après peut-être qu'on approchera des filles qui sont seules mais avec du monde autour. Donc on met les obstacles, on essaye de s'affranchir des obstacles au fur et à mesure, progressivement, pour que la personne, pour que le mec pardon, en question, prennent confiance en lui, se rendent compte que c'est pas si compliqué quand on met les briques les unes sur les autres, on arrive à faire un mur qui tient à peu près la route et qui permet d'approcher les filles de la manière la plus simple et la plus efficace qui soit.
Donc en résumé, c'est se fixer de petits objectifs et oui, progressivement monter la barre petit à petit, augmenter le niveau de difficulté pour ainsi dire. Et essayer d'aller plus loin, donc ça peut se résumer à la répétition et la progression, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça. Alors après, je sais pas toi, à ton niveau, comment est-ce que tu as appris, mais moi c'est comme ça que j'ai appris et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers résultats, donc c'est la méthode que j'aurais tendance à conseiller du coup.
Je conseille en fait exactement la même méthode, et voilà, moi je l'appelle même la méthode répétition et progression.
D'accord, bon,
ça se résume à ça. Et quelque part, bon, tout d'abord, c'est inspiré de mon expérience, parce que je sais que quand on met la barre trop haut, bah, moi, ma première réaction, c'est, bon, ça me paralyse, quoi, quand la barre est trop haut. Mais quand je sors un tout petit peu de ma zone de confort, là, ça va. Ça va. Je suis confronté à mon angoisse, je la ressens, mais c'est gérable. Et une fois, donc, commence à répéter un peu, hein, donc le même exercice ou le comportement qui se situe juste un petit peu en dehors de ma zone de confort. Alors après un moment, on sent que on s'habitue, l'angoisse se dissipe, elle diminue et ça devient oui. Alors cette expérience fera partie de notre zone de confort et ne se situera plus en dehors de cette zone de confort. Et une fois que l'angoisse a diminué, hop, on met la barre plus haut et on répète. Hop, 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 et c'est comme ça qu'on progresse, quoi.
Donc, exactement.
Bon, qu'est-ce qui fait, selon toi, la différence entre un séducteur moyen et un séducteur excellent?
Alors, je pense, maintenant je me trompe peut-être, mais la première chose, pour moi, ce serait le sens de l'observation. Parce que je remarque que la plupart des bons séducteurs ont un bon sens de l'observation qui leur permet derrière d'alimenter entre guillemets leur intelligence sociale. C'est-à-dire que du fait qu'ils ont observé certaines choses, ils vont agir différemment Ils vont essayer d'adapter, pas forcément leur discours, mais ils vont essayer d'adapter les choses, les dynamiques, pour coller avec les infos qu'ils ont récoltées en amont. Par exemple, quelque chose qui est tout bête, si on est de sortie dans un bar, un mec qui est expérimenté aura plus facilement la possibilité de repérer les filles qui sont venues avec leur mec et les filles qui sont venues toutes seules, ben parce que la manière dont il voit les gens interagir entre eux, il aura peut-être perçu des choses que quelqu'un qui débute n'aura pas perçues. Et donc, il sait que s'il va approcher la fille, potentiellement, son mec peut revenir derrière. Donc, il ne sera pas surpris.
Ok. Donc, le sens de l'observation.
Ouais, pour moi, c'est le sens de l'observation et l'intelligence sociale, parce que c'est deux choses qui sont complémentaires et qui se travaillent également.
Que veux-tu... Oui, ça va être une question assez difficile. Que veux-tu dire exactement par intelligence sociale?
Oui, alors effectivement, c'est pas évident à dire. C'est-à-dire que, au fur et à mesure qu'on va accumuler de l'expérience, entre guillemets, en discutant avec des gens, que ce soit des hommes ou des femmes, on va développer une sorte d'intelligence dans le sens où on saura de quelle manière on peut ou on ne peut pas solliciter les gens, ne serait-ce que pour obtenir un résultat. Enfin, j'aime pas trop le côté obtenir un résultat parce que dans ma vision des choses, on n'est pas là pour obtenir quelque chose des gens, mais plutôt pour partager ou pour donner aux gens. Mais disons que avoir de l'intelligence sociale, c'est déjà être capable de prédire un minimum si, selon ce qu'on va faire, on a des chances d'être bien accueilli par la personne ou d'être mal accueilli. Quelqu'un qui n'a pas du tout d'intelligence sociale, il va faire les choses sans forcément savoir quelle sera l'issue de l'interaction. Quelqu'un qui en a, par contre, qui a déjà un sens plus aiguisé, saura à l'avance que là, potentiellement, il y a beaucoup plus de chances que ça marche en faisant comme ça qu'en faisant de telle autre manière. Un exemple tout simple, par exemple, si vous appelez vos amis uniquement quand vous avez besoin d'aide, et que un de vos amis a une intelligence sociale élevée, quand il va décrocher votre appel, il saura à l'avance que vous allez l'appeler juste pour lui demander de l'aide, pas pour prendre de ses nouvelles, par exemple. Donc ça, déjà, c'est faire preuve d'un minimum d'intelligence sociale. Vous avez compris un peu les dynamiques qui se passent entre les gens, pourquoi est-ce qu'ils viennent vers vous et pourquoi vous allez venir vers eux. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué la chose. Est-ce que semble clair?
Si. Non, c'est très clair. Si. Ok. Est-ce que tu as une technique de séduction préférée? Et si oui, laquelle?
Technique, non. Déjà, j'aime pas trop ce mot. Par contre, j'ai le mot qui m'échappe. Pas mon mode d'emploi, mon procédé habituel, on va dire, c'est juste d'approcher les filles qui me plaisent dans la rue et d'engager la conversation le plus naturellement possible et le plus spontanément possible en m'inspirant de ce qui me passe par la tête. Je cherche pas à ressortir des choses toutes faites parce que pour avoir essayé au début c'est marrant et puis au bout de la deuxième fois on s'ennuie puis on se dit que si les gens accrochent à ça et uniquement à ça derrière, ben c'est un peu décevant. Donc au final nous on s'ennuie et on se trouve on a l'impression que les gens en face sont décevants aussi parce qu'ils accrochent à des trucs tout prêts, tout préparés, théâtralisés. Donc non, je préfère vraiment rester complètement spontané, naturel. Je cherche pas à optimiser au maximum. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben c'est pas grave. Non, je pense qu'à ce niveau-là, je risque de décevoir les lecteurs qui cherchent une technique imparable. Après, il y a deux, trois astuces, comme je l'ai dit au début, où voilà, il y a des choses qui sont plus intelligentes à faire, comme proposer le rendez-vous avant de prendre le numéro de téléphone.
Ouais.
Mais sinon, j'ai pas de technique à proprement parler.
Ok.
Donc du coup, ouais, je pense que ça va un peu les décevoir, ma réponse à ce niveau-là, mais j'ai plutôt tendance à privilégier le feeling que les choses toutes préparées. J'ai pas une feuille A4 dans ma poche que je déplie pour réviser, avant d'approcher les filles.
Ok. Qu'ils soient déçus ou non, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, car ce que j'ai remarqué, moi, de mon côté, avec certains de mes clients et des lecteurs, c'est que ils utilisent les techniques comme masque, comme sparadrap pour cacher leurs faiblesses, leurs défauts, leurs incertitudes. Hein. Quelque part dans leur tête, ils se disent « Je ne suis pas assez bon, mais avec ces techniques, là, je pourrais les séduire. » Ce qui signifie en fait que voilà, c'est pas moi qui est séduisant, c'est pas moi qui séduis la femme en face de moi, mais c'est la technique. Moi, je trouve que c'est enrichissant, c'est sain d'apprendre des techniques toutes faites, mais ces techniques, ou ces histoires toutes faites, sont en fait la cerise sur le gâteau, c'est un petit bonus, c'est comme manger un petit bonbon pour se faire plaisir. Ben, ces techniques servent à rajouter un peu de piment, un peu de couleur aux interactions. Mais si je peux coller un pourcentage, je dirais que les techniques, ça devrait pas faire plus de 1 ou 2% de l'interaction, quoi. Hein. Le reste, comme tu dis, ça doit venir naturellement. Et venir naturellement, ça signifie pour moi, voilà, s'exprimer, tout simplement. S'exprimer, parler à haute voix, essayer de ressentir ce que l'autre personne ressent, essayer de partager avec l'autre ce que toi tu ressens, ce que tu penses, et c'est tout. Il n'en faut pas plus.
Exactement. En fait, je pense que les gens ont peur d'être quelque part jugés sur ce qu'ils vont dire, donc ils préfèrent utiliser des choses qui ne sont pas d'eux, comme ça ils n'ont pas l'impression d'être jugés eux, mais que c'est ce qu'ils disent qui est jugé au final.
Oui.
Ils ont peur de se mettre en avant.
Tout à fait, comme ça, quand ils se prennent un râteau, ils peuvent se dire « Ah, c'est pas moi, c'est la technique. » Ok, parlons maintenant un peu de la drague en ligne.
Ah, allons-y. Qu'est-ce que tu veux savoir?
Ouf.
En fait, plein tout, de choses, tout.
Quels sont les éléments clés pour réussir dans la drague en ligne?
Ah, alors... Beaucoup de choses, en fait, peuvent être disqualifiantes, en fait. À commencer par des choses aussi simples que les photos, le pseudo, le profil, avant même déjà d'arriver à l'email. Donc, le conseil le plus simple que je pourrais donner à un mec qui veut se lancer dans les rencontres en ligne, c'est de pas commencer par ouvrir un compte de mec, mais par commencer par ouvrir un compte de fille. Donc se faire un faux profil de fille, à la limite le strict minimum, pomper une fausse photo sur Google de fille plutôt mignonne, enfin en tout cas de fille qui nous plaît, et voir comment les autres mecs essayent de nous aborder. Et suite à ça, donc on va certainement recevoir des tonnes de sollicitations. Si on est sur Mythique, on va recevoir des charmes à l'appel. Donc essayez d'aller visiter, je sais pas, entre 10 et 50 profils, pour donner un ordre d'idée, et voir qu'est-ce qu'on trouve marrant, qu'est-ce qu'on trouve complètement pitoyable. Et en général, le filtre qu'on avait des choses va se modifier rapidement parce que on va recevoir souvent les mêmes messages, souvent le même genre de sollicitations, et ce qui nous semblait à l'origine être une bonne présentation va nous sembler au final ultra banal, et on va de cette manière comprendre pourquoi la plupart des filles en fait filtrent beaucoup les mecs, ne serait-ce que sur les photos, les profils ou les pseudos, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se ressemblent là-dedans, qui disent les mêmes choses et qui au final sont pas intéressants parce qu'ils n'arrivent pas à se démarquer des 50 ou des 100 autres mecs qui sont dans la boîte de réception, quoi. Donc ce serait mon premier conseil, ce serait d'ouvrir un compte de filles et d'essayer de voir qu'est-ce qui est chiant en fait à lire de manière répétée, de manière répétitive. Quels sont les, comment dire, les pas les modèles, mais les les schémas qui se répètent. Souvent, par exemple, dans les emails, le titre, c'est « Bonjour » ou « Coucou, comment ça va ?» Enfin, il y a plein de mecs qui écrivent ça et qui font genre copier-coller du mail 100 fois à 100 personnes. Ils croient être les seuls, sauf qu'en fait, il y a aussi 100 autres mecs qui font « Coucou, comment ça va ?» Donc au final, il y a peut-être, je sais pas moi, 100 000 mails qui partent comme ça dans la nature, qui disent exactement la même chose à 100 filles différentes, je sais pas. Donc voilà, essayez déjà de distinguer qu'est-ce que les mecs font tous de la même manière pour ne pas faire la même chose justement.
Ouais, pour se différencier, pour se démarquer.
Finalement. Exactement.
Ouais. Ok. Tu m'as parlé du profil aussi, de la photo, du profil,
ouais.
Du contenu du profil. En quelques mots, quelles sont les caractéristiques d'un bon profil?
Alors, déjà, c'est une photo qui fait une bonne première impression. Et ça peut être assez subjectif. Donc, mon meilleur conseil, ce serait d'aller sur un site communautaire comme badoo.com, si vous connaissez. Sinon, c'est écrit badoo.com. Sur ce site-là, on peut publier ses photos et les autres internautes les notent. Donc ça va vous permettre déjà de vous situer et de savoir quelles sont les photos qui sont mieux, quelles sont les meilleures photos que vous avez en stock. Et si vos notes sont vraiment trop basses, ben débrouillez-vous pour embaucher un ami un après-midi où il fait beau et aller faire des photos, je sais pas, au parc. Essayez de maximiser les situations pour avoir des photos dans différents contextes. Et puis remettez en ligne sur Badoo jusqu'à avoir des scores intéressants. Et comme ça, vous saurez lesquels sont à même de plus intéresser les filles et les gens en général. Voilà, ça c'est pour la partie photo. Pour la partie profil...
Attends, je vais t'interrompre juste deux secondes. Pour toi, c'est un score satisfaisant. C'est quoi le minimum d'un score satisfaisant?
Bon, je sais pas, je pense que tout le monde peut avoir une photo qui est notée aux alentours de... Bon, 7, c'est limite. 8, entre 8 et 9, c'est une bonne photo, quoi.
8 et 9 sur 10, c'est ça?
Ouais, ouais.
Oui, bien sûr. Pas sur 20, oui, non.
Plus sur 100, ouais. Donc, oui, parce que de mémoire, j'y suis pas retourné depuis un petit moment, mais sur Badoo, il me semble que les notes sont sur 10.
Ok.
Donc, voilà. Au niveau du profil... Le piège, c'est de tout, absolument tout remplir. Ne remplissez pas tout, parce que ça en dit beaucoup trop sur vous. Ce serait comme, je sais pas moi, aller remplir la fiche d'une agence matrimoniale, en espérant que derrière, on va pouvoir intéresser la fille juste sur quelques critères, sur des cases à cocher. Non, c'est pas ça qui dégage du charme et qui va vous rendre plus attirant aux yeux des nanas. Donc, mettez juste quelques critères qui vous tiennent à cœur parce que vous avez envie de les partager et par exemple le critère que personnellement je ne vois pas du tout partager c'est la case salaire parce que j'ai pas du tout envie d'attirer les filles qui sont intéressées uniquement par les thunes par exemple, juste une idée comme ça. Donc ça sert à la fois à garder un peu de mystère, de ne pas tout dire, mais aussi de filtrer les filles que vous voulez pas forcément voir ou au contraire celles que vous voulez voir. Par exemple, si vous mangez bio, ça peut être intéressant de le mettre sur votre profil parce que potentiellement les filles qui mangent bio seront intéressées, enfin en tout cas plus intéressées de discuter avec vous qu'avec un mec qui partage pas du tout la même alimentation. Je prends l'exemple bio parce qu'en général c'est quelque chose qui est assez fort au niveau des nanas, quoi.
Et dans le descriptif du profil, est-ce que tu parles surtout de toi ou est-ce que tu parles surtout de ce que tu cherches chez une femme ou de quel type de femme tu cherches?
Ah, alors, je vais te décevoir un peu parce que je vais te dire les deux.
Mmh.
Par contre, là où je peux donner une piste intéressante pour les auditeurs, c'est que plutôt que de lister des choses de manière complètement factuelle, du style je ne veux pas une fumeuse, je suis alpiniste, j'ai 23 ans, j'aime lire des livres, enfin de rester vraiment sur des informations très très courtes et très très directes et d'en lister plein, préférez lister juste quelques informations, par exemple la musique, et développer plus en détail cette information. Donc, par exemple, moi, j'aurais tendance à dire que j'aime beaucoup la musique, et plus particulièrement la musique électronique, dont, je sais pas moi, Daft Punk, j'ai pas d'exemple en tête exact, mais entre autres parce que je prends beaucoup de plaisir non seulement à écouter la musique électronique, mais aussi à la mixer, que ce soit pour moi-même ou en soirée pour mes amis. Déjà, ça donne une toute autre contenance à l'information, parce que la fille déjà m'imagine en train d'écouter ma musique, en train d'écouter le style de musique, en train de m'imaginer où est-ce que je l'écoute et avec qui je l'écoute. Donc c'est pour elle une manière plus simple déjà de m'imaginer et de se projeter dans ma vie, même sans m'avoir vu, parce qu'elle sait pourquoi j'aime les choses, comment je les fais et avec qui je les fais, ce qui au passage lui indique que je suis pas tout seul dans une caverne, je vois aussi des gens.
Si je comprends bien, au lieu de donner une liste d'informations en largeur, hein, j'aime A, B, C, D, E, F, G, jusqu'à Z, il faut surtout approfondir. Donc, pas en largeur, mais en profondeur. Donc, se concentrer sur 1, 2, 3 points importants et développer ces points. Au lieu de donner une liste, une énumération de faits, il faut plutôt décrire quelques caractéristiques, quelques ou intérêt, ou enfin quelques informations. Il faut les décrire, donc plus en profondeur qu'en largeur, un, et deux, moins de faits et plus de descriptions, c'est ça?
Exactement, et si on peut, c'est décrire donc pourquoi est-ce qu'on aime cette activité, dans quelles circonstances on l'a fait, avec qui, mais on peut aussi aller plus loin, genre qu'est-ce qu'on ressent quand on l'a fait, qu'est-ce que ça nous apporte personnellement, comment est-ce qu'on l'a découverte la première fois. Enfin, ça peut aller très loin. Oui. Mais l'idée, c'est de se dévoiler, de dévoiler une partie de soi-même à travers une seule idée. Donc, ça a l'avantage de ne pas se dévoiler, enfin, de ne pas nous dévoiler complètement à la fille, parce que c'est que relatif à une information. Mais en même temps, ça lui donne suffisamment de profondeur au niveau de cette idée pour se faire une idée de qui on est, de ben, est-ce que potentiellement on peut s'entendre ou pas du tout. Est-ce qu'on a des centres d'intérêt en commun? Est-ce qu'on a déjà ressenti les mêmes choses? Ce genre de choses.
Mmh. Ok, ok. Ensuite, que peux-tu nous dire sur le premier contact, le premier message?
Alors, actuellement, si je devais me remettre à faire des rencontres en ligne, je ne serais pas dans une optique de ratisser large, donc je ne chercherais pas à plaire à toutes les filles. Chose qu'on peut par contre avoir en tête quand on débute, parce que on ne sait pas vraiment par où commencer. Donc mes messages sont vraiment formatés pour à la fois filtrer les filles qui ne me correspondent pas et attirer celles qui me correspondent. Donc le style est assez particulier. Je sais d'avance que ça conviendra pas à tout le monde, mais je vais vous en parler quand même, comme ça, ça vous donnera quand même quelques pistes. Alors ça commence en fait par le titre du message. Comme on en a parlé tout à l'heure, j'aime pas récupérer les titres génériques du style « Coucou, comment ça va, faisons connaissance », ce genre de choses.
Ouais,
au contraire, voilà, c'est ça.
Ouais.
Au contraire, je préfère mettre quelque chose qui est soit complètement débile dans le titre, soit complètement intrigant, soit un mélange des deux, ou soit quelque chose qui soit lié à une période de l'année. Par exemple, quand c'est les soldes, ça peut être quelque chose d'aussi débile comme « Alors, combien t'as claqué cette semaine dans les magasins ?» Voilà. Quand c'est la période de Noël, ça peut être quelque chose comme « Connais-tu la Laponie ?» Tu vois, enfin, j'invente des trucs qui n'ont absolument aucun sens, ou qui ont du sens, mais en tout cas qui... Enfin, je me prends pas au sérieux. Voilà, c'est surtout ça l'idée de départ. Parce que je veux que d'entrée de jeu, si la fille me répond, ça parte sur un ton déconne, on s'amuse, et pas sur un ton hyper solennel. J'ai 26 ans, je travaille dans l'informatique, je gagne 50 000 euros et je recherche une fille blonde à forte poitrine. Voilà, je veux que ce soit fun et qu'on s'amuse d'entrée de jeu. Donc ça, c'est pour la partie titre. Ensuite, pour la partie message à proprement parler, là, pareil, je reste sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que je vais pas forcément commencer par dire bonjour ou bonsoir. J'aurais plutôt tendance à utiliser quelque chose de plus familier comme hello ou salut ou hug ou hey, un truc un peu fun. Je peux même des fois m'amuser à aller sur Google Traduction et à traduire bonjour dans une langue que je connais pas moi-même et que la fille connaît certainement pas, mais voilà, c'est fun, c'est marrant, c'est original. Et si la fille est un minimum curieuse, elle ira chercher elle-même dans Google Traduction ce que ça veut dire. Et quand elle va me répondre, elle va me dire, mais pourquoi tu m'as dit bonjour en croate? Tu vois, ça, voilà. Donc, suite à ça, donc, c'est vraiment pour l'instant juste des petits points de détail, mais c'est là où déjà je vais filtrer si la fille est fun ou si elle est déjà dans une optique trop sérieuse sur le site, et du coup, ça ne va pas m'intéresser. Derrière, toujours dans une optique déconne, je vais lui poser quelques questions, de la plus simple à la plus débile, ou enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre en fait. Donc là, par exemple, j'ai ressorti un modèle que j'ai sous les yeux pendant que je discutais. Et le modèle que j'utilisais à l'époque, parce que bon, je suis assez feignant, donc une fois que j'ai trouvé des questions sympas qui me permettent de rencontrer des filles sympas, je réutilise largement. En customisant quand même un minimum par rapport au profil de la fille, mais quand j'ai pas d'inspiration, je peux toujours utiliser un modèle brut de fonderie si jamais. Donc là, l'idée, c'est hug. Parle-moi un peu de toi, trois petits points. Combien mesurent tes plus hauts talons, trois petits points. Ce que tu prends au petit-déj, trois petits points. Combien de cuillères de Nutella dans tes croissants, trois petits points. Les bases, quoi. Trois points d'exclamation. Et je signe Alan. Et en dessous, je fais un post-scriptum. Qui dois-je saluer? Parce que je déteste les filles qui se présentent pas dans leur premier message. Donc pour moi, comme ça l'incite déjà à mettre son prénom. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que de répondre à une fille en lui disant « Salut !» et on ne sait pas quoi mettre derrière parce que la fille ne nous a pas dit son prénom. Donc voilà, je ne me prends pas du tout au sérieux et j'ai tendance justement à aller dans la déconne. Et, donc la fille au début est intriguée par le titre, en général, elle ouvre. Ensuite elle tombe sur un message qui n'a strictement rien à voir avec les 10 derniers. Et soit elle répond, et auquel cas c'est en général parce qu'elle est dans le même état d'esprit, très second degré, déconne et compagnie, soit elle répond pas, et auquel cas ben, c'est pas grave, ça veut dire que je perds pas mon temps non plus avec une fille qui est trop sérieuse pour moi.
Ok. Est-ce que tu adaptes ton premier message en fonction de la fille, ou en fonction du profil de la fille que tu...
Ouais, bien sûr. J'essaye dans la mesure du possible. Par exemple, ben, ne serait-ce que le minimum, c'est dire « Salut, machine », en mettant son prénom à la place de machine, bien sûr, si je connais son prénom. Ensuite, si je vois qu'elle a des activités qui me plaisent, plutôt que de mettre les questions génériques que je viens de vous donner qui sont issues de mon modèle, ben, je vais adapter le modèle pour qu'il y ait peut-être sur les trois questions, dont deux qui sont de la déconne, que celles qui sont un peu plus sérieuses, soit en rapport avec ses activités, par exemple.
Ouais. Ok, donc si j'ai bien compris, ou bien tu personnalises à 100%, ou bien tu utilises un petit modèle standardisé, semi-standardisé plutôt.
Ouais, c'est semi-standardisé. Exactement.
Tu ne fais jamais, est-ce que tu as déjà testé des premiers messages 100% standardisés en masse? Le même message à 50 filles, par exemple.
Oui, mais en fait, c'est pas que ça marche moins bien, c'est juste que ça me fait chier. Intérieurement, j'ai l'impression de pas discuter avec une fille. Donc, quand j'ai vraiment pas d'inspiration et que j'ai quand même envie de contacter la fille, je lui envoie le message brut de fonderie. Mais sinon, j'essaie quand même de faire l'effort de personnaliser parce que déjà, moi, ça me fait marrer intérieurement de préparer des questions un peu débiles, mais qui soient en rapport avec la fille. Et d'autre part, parce que je trouve que c'est plus stimulant intellectuellement. Je vois pas trop l'intérêt d'envoyer 100 000 messages identiques pour rencontrer des filles. Il y en a peut-être qui vont trouver ça bien parce que c'est plus facile, mais moi je trouve ça juste chiant. Voilà, c'est ça. Donc quand c'est possible, je préfère faire l'effort de personnaliser le message parce que j'y prends plus de plaisir.
Ok.
Tout comme quand j'ai une conversation avec une inconnue dans la rue, j'essaye de pas avoir la même conversation qu'avec la fille que j'ai abordée avant, par exemple.
Ouais. Ouais.
Parce que sinon, je m'ennuierais vite.
Oui, oui, tout à fait. Et ensuite, alors, après le premier message, comment, oui, comment développer en fait la conversation en ligne?
Alors, là, c'est un peu plus délicat que la conversation dans la vie réelle, parce qu'on n'a pas forcément la même notion du temps. Enfin, ça va s'allonger un peu plus dans la durée. Si la fille déjà répond au premier message, on sait qu'il y a un minimum d'intérêt. Il y a de fortes chances pour que la fille ait consulté le profil ou ait tout du moins... n'est tout du moins pas fui en voyant la photo, on va dire, si elle n'a pas visité le profil, parce qu'en général, elle voit la photo quand elle ouvre le message. Donc, pour essayer de la revoir, tout simplement, qui est l'étape suivante, il faut convenir d'un rendez-vous. Et là encore, c'est comme quand on l'approche dans la rue, l'erreur, c'est d'essayer de choper le numéro avant d'obtenir le rendez-vous. Donc, plutôt essayer de convenir d'un rendez-vous. Et donc, même modèle que dans la rue, on essaye de cerner ses centres d'intérêt, lui proposer une sortie qui pourrait lui plaire à elle comme à nous aussi, hein, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on s'adapte complètement à ce qu'elle fait, il faut que la sortie qu'on propose nous intéresse un minimum. Je ne vais pas aller, par exemple, inviter une fille à un musée d'art moderne, parce que je sais très bien pertinemment que l'art moderne, je trouve ça à vomir. Par contre, l'inviter au Louvre, par exemple à Paris, où là je trouve qu'il y a des choses qui sont magnifiques à regarder, oui, ça me plaît beaucoup plus. Et donc, une fois qu'on a convenu d'un rendez-vous, à ce moment-là, je vais prendre ses coordonnées. Donc, échange de numéros. Et la conversation va ensuite pouvoir se poursuivre par SMS ou par téléphone. Alors, j'aime bien mixer les deux. Voire limite privilégier le SMS et appeler juste une fois pour qu'elle entende ma voix et qu'elle soit quand même un minimum rassurée au téléphone. Parce que ça permet quand même pas mal de mettre en confiance une fille, le fait qu'elle entende notre voix par téléphone avant le rendez-vous. Alors par contre, autre alternative, plutôt que d'essayer de planifier le rendez-vous tout de suite, ce qui peut être intéressant, c'est de basculer sur messagerie privée, c'est-à-dire lui proposer de poursuivre la conversation par email plutôt qu'en passant par le système de messagerie du site de rencontre. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va vous permettre de limiter sa distraction. C'est-à-dire qu'en général, quand elle tape son message dans son logiciel d'email, elle est moins sollicitée, il n'y a pas des pop-up qui s'ouvrent dans tous les sens juste à côté du message qu'elle est en train d'écrire, donc elle sera plus concentrée sur ce qu'elle vous écrit, pardon. Donc ça joue plus en votre faveur, vous n'êtes pas en concurrence directe avec les 10 autres mecs qui sont en train de la harceler sur le chat, par exemple.
Ouais. Et aussi, psychologiquement, c'est déjà un pas en avant, comme ça, parce qu'elle sort de l'état d'esprit site de rencontre, pour transiter dans cet état d'esprit email plus personnel comme ça.
Exactement, exactement.
Donc, si je comprends bien, tu envoies le premier message assez original qui se démarque de 99% des mecs qui écrivent « Coucou, comment vas-tu? As-tu passé un bon week-end? As-tu aimé Zen ?» Tu vois, ce genre.
C'est ça. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, ne surtout pas aller sur MSN, parce que vous retombez sur un système de chat où vous avez plein de concurrence et où, en général, les filles sont plutôt là pour collectionner des potes ou des amis que des personnes qu'elles vont vraiment revoir. C'est plus pour collectionner des amis virtuels, on va dire. Donc, passer du site de rencontre à l'email ou du site de rencontre à la sortie puis au téléphone, mais évitez les systèmes de messagerie instantanée parce que ça joue pas forcément en votre faveur. Okay. Ça vous met en tout cas en concurrence.
Okay. Et combien de messages est-ce qu'il y a entre le premier message et pour ainsi dire le rendez-vous et ensuite la prise de numéro?
C'est assez variable. C'est variable petit 1 de selon ce que la fille est disponible. Si elle est disponible rapidement, ben vous allez échanger moins de messages, ça semble logique. Et petit 2 de votre expérience, parce que selon comment vous allez formater votre premier message, déjà, vous allez tendre des perches à la fille. Et le type de perche que vous tendez va amener une réponse. Et cette réponse peut déjà avoir pas mal d'indices sur ce sur quoi la fille pourrait être intéressée. Donc, je dirais que actuellement, si je devais me remettre sur les sites de rencontre, en 3 messages, on peut convenir d'un rendez-vous, sans forcer. Maintenant, si vous en faut 5 ou 10, c'est pas grave, hein. Prenez votre temps. Et pour arriver jusqu'au numéro de téléphone, bah c'est très simple. Une fois que vous avez conduit le rendez-vous dans votre troisième message, par exemple, donc elle va vous répondre en disant OK. Si elle n'a pas déjà inclus ses coordonnées en vous répondant, bah vous lui demandez bah, OK, c'est quoi ton numéro ? Je te laisse le mien, on ne sait jamais s'il y a un changement de programme ou un imprévu. Comme ça, on se tient au courant et puis on peut continuer à discuter tranquillement par SMS et par téléphone. Donc voilà, ça se fait dans la foulée, hein. Il n'y a pas vraiment de magie, c'est très très normal, très logique. Si elle accepte un rendez-vous, derrière vous échangez vos coordonnées. Donc si ça se fait au bout du troisième message, le rendez-vous, le quatrième, ce sera les coordonnées. Si ça se fait au bout du cinquième, ben, vous aurez ces coordonnées dans le sixième message, etc., etc.
Ok. Et selon toi, quels sont les meilleurs sites de rencontres?
Alors, ça fait un petit moment que je suis plus actif, mais à l'époque, j'avais beaucoup aimé Adopt un mec, qui donnait justement une certaine liberté au niveau de la description du profil, qu'on n'a plus maintenant sur des sites comme Mythic ou Match, où c'est surtout des cases à remplir, des cases à cocher, mais il n'y a plus vraiment de champ libre où on peut mettre ce qu'on veut. Donc ça ressemble plus à des sites d'agences matrimoniales qu'à des sites de rencontres où on peut s'exprimer librement, et je trouve ça un peu dommage. Donc Adopte un mec, moi c'est un site que j'avais bien aimé à ce niveau-là, et aussi du fait que c'était plus comment dire, plus fun, les gens sont moins là pour se prendre la tête, il y a peut-être aussi une mentalité plus je couche plus facilement, qui fait qu'on peut rencontrer potentiellement des filles plus rapidement. Donc voilà, c'était mon coup de cœur de l'époque, en tout cas.
Ok, Adopte un mec. Okay.
Ouais. Qui d'autant plus qu'à l'époque, en tout cas, il était gratuit. Je sais pas si ça a évolué depuis, mais donc ça faisait un atout de plus par rapport à Mythic ou à Match, qui était déjà payant en 2008.
Ouais, et qui sont assez chers, en plus. Hein.
Et qui sont assez chers.
On fait de la mauvaise pub pour eux. Vous êtes trop cher.
Bah, c'est pas vraiment que je leur fais de la mauvaise pub parce qu'ils sont trop chers. À la limite, si les résultats suivaient, mais bon, j'en ai été plutôt moyennement satisfait. En fait.
Ouais. Ok. Passons à autre chose maintenant.
Ouais.
Quelle est la différence entre toi et les autres gourous ou experts en séduction?
Ah. Je pense que la différence, elle va être très simple, c'est que déjà, je ne suis ni un expert ni un gourou.
Et tu es modeste, ok.
Mon truc, non, mais honnêtement, mon truc, c'est que voilà, j'ai beaucoup galéré avec les filles jusqu'à l'âge de 21-22 ans, après quoi je me suis pris en main. J'en ai un peu chié au début, mais voilà, je me suis accroché et puis ça a fini par payer, on va dire. Donc maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, j'ai envie de tout simplement partager cette expérience avec des gens qui eux aussi débutent. Et donc si je peux bénéficier à leur démarrage, entre guillemets, ben voilà, tant mieux. Okay. Mais j'ai pas la prétention d'être un expert, si tu veux. Hein. Mon discours, c'est pas, voilà, j'ai niqué sans fiche, je suis un expert, je peux vous apprendre plein de choses. Non, l'esprit, c'est plutôt dire, voilà, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai appris pas mal de choses, donc j'ai envie de les partager avec ceux qui débutent. Ceux qui sont déjà confirmés, je pense pas avoir grand-chose à leur apprendre.
Bah, tu te trompes, mais bon.
Peut-être, hein, peut-être. Mais en tout cas, c'est la manière que... Enfin, c'est dans cette optique-là que j'ai lancé DragonFee.net, pour aider les gens qui débutent.
Ok. Alors, tu as développé un produit spécialement pour les hommes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais. Alors, c'est un programme qui s'appelle J'aborde. Et donc, c'est un programme qui est destiné aux mecs qui débutent et qui veulent aborder les filles dans la rue, les transports, les magasins, bref, qui veulent aborder les filles le jour. Parce que ben c'est mon approche, ma méthode d'approche préférée, on va dire, c'est approcher les filles le jour, dans la vie de tous les jours, et pas attendre le samedi soir en bar ou en boîte de nuit pour faire des approches. Donc dans ce programme, en fait, j'ai regroupé plusieurs choses. Il y a un e-book où j'explique en fait la théorie de l'approche. J'explique également quelques exercices sur le principe de la progression, comme on en a parlé un peu plus tôt. J'explique également l'état d'esprit que je considère comme étant important pour réussir. Et voilà, donc ça c'est pour la partie e-book. À côté de ça, j'ai un autre e-book qui a été écrit par Alexandre Roth de Lifestyle Conseil que j'offre en bonus. Et là, c'est plus orienté sur quelques conseils rapides et pratiques pour s'habiller correctement, pour pas avoir l'air d'un clochard quand on aborde une fille dans la rue, quoi. Donc ça, voilà, c'est des e-books et c'est de la lecture. Mais bon, la lecture, c'est pas très pratique, pas très concret, on va dire. On a beau essayer d'expliquer du mieux qu'on peut, c'est pas forcément évident de se faire une bonne image de ce que ça doit donner dans la réalité. Donc, à côté de ça, j'ai également ajouté quelques caméras cachées où je montre aux mecs quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on approche et comment on fait une bonne approche. Donc actuellement il y a je crois quelque chose comme 6 caméras cachées, ça fait un peu plus d'une heure de vidéo, je crois qu'il y a quelque chose comme 100 minutes de vidéo actuellement, et j'ai bien l'intention d'ailleurs d'en rajouter prochainement, vu que les beaux jours commencent à revenir, je vais faire d'autres séquences que je vais rajouter au programme, donc ce sera intéressant pour les lecteurs qui ont déjà ce programme, ils bénéficieront également bien sûr des nouvelles vidéos, donc j'essaye de mettre à jour régulièrement le programme. Et la dernière chose que je vais ajouter d'ici quelques jours, alors je peux pas vraiment en parler parce que c'est un bonus, on va dire surprise, mais c'est un bonus qui n'est pas à télécharger ou à regarder en ligne, mais c'est un bonus qui arrivera directement dans la boîte aux lettres de la personne. Mmh. Et qui devrait lui servir entre le moment où il a planifié le rendez-vous avec la fille et le moment où il va la revoir. Parce que ça va lui permettre potentiellement d'aller plus loin, plus vite avec la fille.
Ah, je suis curieux, hein.
Voilà.
Je vais te laisser mon adresse postale.
Donc je te le transmettrai, il n'y a pas de souci. Et donc ça, ce sera le bonus supplémentaire de ce programme. Alors le dernier bonus, j'en parle rapidement, c'est comme je l'ai un peu expliqué auparavant, c'est la mise à jour illimitée du programme en fait. Dès que j'ajoute quelque chose de nouveau ou de complémentaire à ce qui existe déjà pour le programme, les anciens clients bénéficient bien sûr de la mise à jour. Je refais pas payer derrière quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un programme qui est destiné avant tout aux débutants. S'il y a déjà des mecs confirmés qui nous écoutent et qui approchent régulièrement des filles dans la rue, qui récupèrent déjà régulièrement des numéros et qui obtiennent régulièrement des rendez-vous, il y aura peut-être des choses qui vont les intéresser, mais c'est pas pour eux que j'ai réalisé ce programme. Je vise vraiment à ce niveau-là les débutants, les gens qui veulent se lancer et qui veulent pouvoir aborder les jolies filles qui croisent tous les jours dans la rue. Plutôt que d'essayer par exemple de les rencontrer sur internet, parce que ça prend beaucoup trop de temps je trouve, et en plus ça devient de plus en plus payant, enfin la plupart des sites deviennent payants, donc ça coûte vite cher, alors que dans la rue tout est gratuit, quoi. Voilà, donc si les auditeurs veulent se procurer le programme, ils peuvent jeter un œil à la page qui présente le programme sur www.draguerunefille.net/cd comme Coach Drag. Mmh. Okay. Donc pour les lecteurs de Coach Drag, je t'en avais parlé, mais je vous fais 30% de réduction pendant 48 heures parce que voilà, j'aime bien ce que fait Consti, donc j'ai envie de vous faire une offre un petit peu spéciale.
Ouais, c'est très gentil, merci, tu me surprends. Déjà, en tout cas, un grand merci. Hein.
Mais écoute, moi j'aime beaucoup ce que tu fais. J'imagine que tes lecteurs aussi apprécient beaucoup tes articles et tes interventions. Donc j'ai envie de à mon tour les aider et de leur filer un petit coup de pouce.
Merci, merci. Donc je vais résumer. Donc tu as ton programme s'appelle J'aborde.
Exactement.
Et il y a le livre principal.
Ouais.
Il y a un bonus sur le look.
Exactement, c'est ça.
Il y a les caméras cachées.
Ouais.
C'est trois. Et il y a la surprise que les clients recevront dans la boîte aux lettres.
Exactement.
Un bonus physique, pour ainsi dire.
Ouais.
Et le cinquième bonus, c'est la mise à jour à vie, en fait, du programme, c'est ça?
C'est exactement ça.
J'ai tout mentionné, oui.
Très bien, très bien.
Ok. Et ce produit est destiné aux hommes qui veulent se lancer dans la drague en rue.
Exactement.
Ok. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dévoiler, spécialement pour nous, une technique inédite ou un conseil inédit provenant de J'aborde?
Ouais. Alors c'est quelque chose qui est tout simple, mais auquel on pense pas forcément, voire pas du tout, quand on approche une fille dans la rue. Alors je vais te poser la question, comme ça on va voir si toi tu peux me répondre, sachant que bon, je vais te la poser, mais il y a un petit piège, on va dire.
Oui.
Si tu dois aborder une fille dans la rue, est-ce que de quel côté tu vas l'approcher? Plutôt du côté droit ou du côté gauche?
Ça dépend, mais je me sens plus à l'aise en l'abordant de gauche, oui. Je sais pas pourquoi. Maintenant que tu me poses cette question, c'est la première réponse qui me vient en tête. Mais de nouveau, comme je dis, ça dépend de la configuration physique. S'il
y a des obstacles.
Oui, s'il y a des obstacles ou si elle marche presque contre, sur le trottoir, presque contre le mur.
Oui, bien sûr.
Donc, avec son épaule gauche contre le mur, là, je vais pas m'accrocher. Et attends, pousse-toi parce que je me sens. Allez, sinon, alors là, ça sera du côté droit de la fille. Hein, donc, je parle du point de vue de la fille. Donc, moi, à la droite de la fille, et la fille se trouve à gauche de moi, ça, je me sens moins à l'aise avec ça. Donc, je répète, donc, j'aborderai la fille, de gauche. Donc, moi, je me trouve du côté gauche de la fille. Se situe à mon épaule droite.
D'accord. Ok. La petite astuce en fait que je partageais avec tes lecteurs, c'est que dans la mesure du possible, j'essaye d'aborder la fille du côté où elle n'a pas son sac à main, parce que je veux pas qu'elle me prenne pour un voleur. D'autant plus que je vais la toucher sur l'épaule, donc ça peut être assez déstabilisant dans un premier temps, si tu veux.
Ouais.
Donc, quand j'aborde une fille, j'essaye de toujours l'aborder à la mesure du possible du côté où elle n'a pas son sac à main, parce que elle se sentira moins menacée de cette manière.
Ah oui, oui, oui. Ok.
Voilà, c'était la petite astuce que je voulais partager avec tes lecteurs.
Oh putain, j'ai jamais pensé. Ouais, fantastique, merci. Ouais. Je crois que c'est tout. Enfin, non, j'en suis sûr. Hein, on a déjà...
On a fait un bon petit tour d'horizon.
Oui, on a... Pour moi, c'est une interview magnifique, quoi. Allez, on a du contenu extraordinaire.
Bon, mais c'est cool.
Voilà. Donc, pour en savoir plus sur toi, Alan, je vais redonner l'adresse de ton blog. Hein.
Ouais.
C'est draguerunefille.net, je répète.
Exactement.
Draguerunefille.net. Draguerunefille, en un mot... point net. Et pour en savoir plus sur J'aborde, je mettrai donc un lien ici quelque part sur la page du blog. Faut voir en rouge dans le texte, ce sera probablement un lien vers ou bien draguerunefille.net ou bien vers le programme J'aborde.
Ok.
Je compte aussi faire une transcription de cette interview, et donc elle se trouvera ici en dessous de cette interview, et je compte même en faire une version e-book téléchargeable. Elle se trouvera aussi également si quelque part autour de cette interview. Donc voilà. Ok, Alan, est-ce que voilà, tu aimerais ajouter quelque chose?
Mais écoute, je suis juste très très content de pouvoir aider tes lecteurs et j'espère que ben, j'ai été à la hauteur de leurs espérances. Et puis j'aimerais te remercier de m'accueillir sur colcharac.com.
Le plaisir est partagé, Alain. Donc
Cool.
voilà, encore un très grand merci pour toutes ces
Merci à toi.
précieuses et on se parlera bientôt, hein.
Ben, écoute, y a pas de raison, hein. J'espère en tout cas qu'on se reparlera régulièrement.
Oui, tu peux en être sûr.
Parfait.
Allez,
Bon.
merci et passe une bonne soirée.
Merci, bonne soirée à toi également, Constantin.